2018. Quand s'arrêteraient les changements de décor, les lieux de plus en plus grands, de plus en plus anonymes? J'eus à peine le temps de me poser ces questions que déjà l'enfance m'abandonnait, sans me demander mon avis, pour me précipiter dans une période prépubère hostile, peuplée de boutons, de poils, de complexes et d'hormones mâles. J'ai longtemps été nostalgique de mon univers fœtal, celui qui me protégeait en son noyau et dont l'expansion des parois se révéla inexorable après le Big Bang de ma naissance. L'idée d'infini m'effrayait. Bien des années, je crus pouvoir me préserver de la grande marge du monde, rester dans l'enfance, ne pas grandir, ne rien affronter des difficultés adultes qui paraissaient insurmontables. Le collège constitua une secousse importante dans ce processus d'expansion. Je passais du cocon d'une petite école primaire de quartier à un collège-lycée pourvu de 3 cours immenses, de 5 bâtiments et de 1200 élèves. Que serait le monde sauvage d'une telle structure en regard de la jungle dont je sortais déjà? Je retrouverais quelques camarades de classe dont les affinités ne se justifieraient qu'à travers la cohésion vitale face à un Goliath scolaire devant lequel des dizaines de petits David se présenteraient le jour de la rentrée en 6e. Nous nous tiendrions chauds face aux géants qui nous materaient bien avant que nous n'ayons le temps de nous organiser en bataillon solide. L'ogre nous mangerait et nous régurgiterait environ 7 ans plus tard, un bac en poche pour les plus chanceux et, gravé dans le marbre de nos souvenirs, les stigmates de toutes les mésaventures possibles à vivre dans cette institution. Le jour de la rentrée, je crus avoir la malchance de tomber dans une classe où je ne connaissais que 2 filles. Elles se collèrent comme des siamoises de salle en salle. Me trouver seul parmi les autres élèves changerait ma vie. Je ne le savais pas encore. Les premiers jours, je m'assis à côté d'un garçon qui semblait tout aussi perdu que moi. Ma nature me poussait vers les blessures des autres, que je sentais parfois avant eux. Cependant, certains désarrois sont impénétrables, celui de mon voisin de classe en particulier. J'entrepris donc de me concentrer sur les leçons, l'emploi du temps à retenir, les salles à repérer dans le ventre du monstre. Je me contentais de me fondre dans le troupeau à chaque interclasse et je repérais vite les élèves de mon groupe de langue pour suivre les bons moutons. Si je n'avais pas de soucis particuliers avec les professeurs, en dehors de 2 d'entre eux dont tout portait à croire qu'ils avaient raté leur vocation, l'un dans l'armée, l'autre dans l'élevage, cette solitude me transformait à nouveau en cible. Au même titre que mon voisin transparent et qu'une fille que la nature n'avait pas gâtée et qui fut vite la risée des plus insolentes. Peu après la rentrée, elle fut prise à partie dans le couloir alors que nous attendions le professeur de français. Elle se faisait bousculer et moquer à propos de ses cheveux trop raides, de ses lunettes épaisses, de son embonpoint. J'avais pitié d'elle sans être capable de la défendre. Me faire petit m'assurait de ne pas être le prochain sur la liste. Je les observais, stupéfaits, impuissants, honteux, quand un garçon intervint. « Moi j'aime bien ta coupe. Elle te donne des airs de Louise Brooks. Tu sais, cette magnifique actrice américaine des années 20. » Personne ne connaissait Louise Brooks. Des recherches au CDI me permirent plus tard de vérifier ses dires et d'admirer la culture générale de mon camarade. Cela coupa net la gouaille des assaillantes jusqu'à l'arrivée de M. Clément, qui ne remarqua rien comme à son habitude. Ce camarade bienveillant fut élu délégué de classe la semaine suivante. Il était dans mon groupe de langue. Il semblait invulnérable, calme, souriant, autonome, grand. Tout le monde l'appelait Dédé en raison de ses initiales. Porter le patronyme du célèbre philosophe Denis Diderot aurait pu lui peser. Il en fit une force en connaissant son œuvre. Il lui arriva même de s'inventer une appartenance génétique pour impressionner, quand cela l'arrangeait, les profs de français. J'ignore ce qui me poussa à l'approcher. La fascination pour sa personnalité ou le besoin de me sentir protégé par un garçon qui dégageait la force d'un guerrier magnanime. Je culpabilisais à l'idée de me faire aimer de lui à des fins protectrices. Quelle amitié pouvait se construire sur un déséquilibre? Il me donna tort en me rendant l'affection que j'eus instantanément pour lui. Quelque chose chez moi, il me l'avoua des années plus tard, le poussa à refermer ses bras sur mes épaules et à ne plus les lâcher. Nos mains s'empoignaient de façon singulière quand nous nous disions bonjour. Dans les premiers temps de notre rencontre, Je scrutais sa façon de saluer les autres élèves. Aucun n'avait mon privilège. Je me sentais envahi d'une sensation étrange, gonflé de fierté et de sécurité. Si les premières semaines, nous ne nous retrouvions côte à côte que durant les cours, en binôme pour les exposés ou les séances de sport, très vite, nous avions découvert des différences suffisantes pour qu'elles nous comblent l'un l'autre les jours sans école. Denis était un garçon intelligent, un émotionnel calme, en ce sens qu'il comprenait les humeurs des autres sans en être affecté. Ou alors, avait-il cette capacité en lui de savoir s'en protéger ? Me concernant, si j'avais des compétences intellectuelles honorables, je m'épanouissais dans les travaux manuels. Et j'étais de ceux dont il comprenait les humeurs. Parfois, il me protégeait d'elle. Face à son aura de sagesse, j'avais le charisme d'une limace. « Mais non, chacun a ses bons et ses mauvais côtés. Arrête de te dévaloriser, tu as de grandes qualités. » Je me pris à le croire. Sa grâce de prince avait un effet particulier sur les filles qui lui tournaient autour comme des louves en attente d'être choisies. Pour facile qu'elle fût, une séduction frontale ne suscitait aucun intérêt chez lui. Il aimait la complexité, le jeu, la transcendance de l'échec, l'élaboration d'une stratégie positive. Il multipliait les aventures et durant les booms, où il me poussait à l'accompagner, il était sûr de conclure sur un des slots de la soirée, laissant derrière lui les non-élus désespérés qui allaient pleurer dans les bras d'un autre. Au final, les garçons de la meute y trouvaient leur compte. J'observais ce balai hormonal d'un œil lointain, moi qui m'étais interdit de retomber amoureux. « Tu as tort. Trois filles au moins sont amoureuses de toi », me disait-il quand je lui parlais de mon renoncement. Pour lui faire plaisir, il m'arriva d'accorder l'une ou l'autre danse sur Frankie Goes to Hollywood ou Scorpion, plus pour la musique que pour la fille. Je me laissais enlacer et me contentais de poser mes deux mains sur ses hanches et de regarder droit devant moi pour m'épargner son regard de biche aux longs cils. Durant le dernier tiers du morceau, au moment où l'on sent que la fin est inéluctable et qu'il faudra changer de cavalier ou aller s'échouer de dépit sur un morceau de canapé, je la sentais se presser contre moi, pencher sa tête sur le côté pour offrir son cou à un baiser que je gardais en moi. Abandonnant la fille à la dernière note de musique et à son amertume, je regagnais ma place près du buffet disparate et je cherchais Dédé du regard. La période de slow annonçant une soirée déjà bien engagée, il se trouvait en général dans un coin sombre à embrasser à pleine bouche une fille. Elle se tortillait sous la main de mon copain qui avait bravé le t-shirt et parfois un soutien-gorge pour les plus précoces d'entre elles. Dès le lundi matin, il testerait l'élu en s'excusant auprès d'elle pour me rejoindre, déclinerait son invitation du mercredi suivant pour aller faire du vélo avec moi. En somme, il proclamait à sa copine qu'il faudrait partager avec son meilleur ami et qu'il n'en serait pas autrement. Un bon test. Si au bout de 3 jours elle est jalouse, tu imagines plus tard ? Je le trouvais sévère. Le passage en 3e et l'été qui précéda cette rentrée me firent l'effet d'une traversée du désert. Mes parents avaient programmé des vacances en camping-car à l'étranger durant plusieurs semaines. Ceux de Denis avaient planifié le mois d'août dans la maison familiale pyrénéenne. 2 mois d'éloignement par la force des choses. Même pas de quoi nous écrire ou nous téléphoner. Le seul signe de vie durant cet été fut la carte postale trouvée à notre retour respectif. Je pris conscience du manque. Les adolescents d'aujourd'hui, téléphone intégré à la main, ne peuvent plus mesurer ce sentiment de longue absence. Je pensais sans arrêt à lui. Je trouvais le temps long sur les routes scandinaves, puis dans notre maison de Rennes, alors qu'il était à des centaines de kilomètres. Je bricolais, je faisais du vélo, j'aidais ma mère à cuisiner, mon père parfois quand il m'emmenait une journée dans son entreprise. Je regardais la télé, avachi dans mon canapé. Pour la première fois depuis Estelle, j'eus à nouveau envie de l'école, envie de la rentrée. Peu importait les profs, l'emploi du temps et les enjeux d'orientation, je voulais seulement le retrouver. Je craignais d'être amoureux de Dédé. Homo, Pédé, Tarlouse. J'imaginais déjà les railleries, le vacarme cruel des vautours sans cervelle qui nous tourneraient autour pour dépecer notre amour illicite. Une semaine avant de le revoir, je me décidai à lui parler de mes doutes, de ma capacité à faire face. J'étais gonflé, plein de promesses, gros de félicité. Il revenait. Nous allions nous retrouver et tout nous dire, car nous nous disions tout. Nous nous étions pris dans les bras et j'avais eu du mal à le lâcher. Enfermé dans sa chambre, nous nous racontions notre été. Il me parla de deux amoureuses. J'en eus le cœur serré, confus dans mes pensées. « Et toi ? » dit-il. « Moi, rien. Tu m'as manqué. D'ailleurs, il faut que je te parle de quelque chose. » J'avais oublié toutes les phrases préparées, tous les mots choisis avec soin, toutes les émotions rangées et certaines, toutes les autres, floues, comme l'horizon d'une route brûlante. Il me devança encore. « T'as peur d'être amoureux de moi ?»« Toi aussi ?»« Moi ?»« Non, je suis sûr d'aimer les filles. Leurs petits seins qui pointent, leur langue timide, leurs petites culottes mouillées. Tu devrais essayer. » Je ne disais rien. Je voyais bien qu'il me provoquait, qu'il voulait me faire réagir, partager ses plaisirs-là. Je n'en avais que faire. De plaisir, je connaissais celui de sa présence. « Mais je t'aime aussi, » ajouta-t-il enfin. J'en fus chaviré. D'autant qu'il trouva la réponse à ma profonde question, celle de savoir si je l'aimais comme lui aimait les filles. Il y répondit en m'en posant une autre. « Tu veux qu'on essaie ?»« Qu'on essaie quoi ?»« Bah, de s'embrasser, de se caresser, ainsi tu sauras. » Je sus sans essayer. Nous rions encore aujourd'hui de cette confusion. Ce jour où les doutes se dissipèrent, je ne réussis pas à lui dire que je l'aimais. Il ne m'en tint pas rigueur. Il savait, cela lui suffisait.